André Gide, la séquestrée de Poitiers. J'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Pascal, Pensée. Il suffit bien souvent de l'addition d'une quantité de petits faits très simples et très naturels, chacun pris à part, pour obtenir un total monstrueux. Les faux-monnayeurs. Chapitre 1, 4. Avant-propos. J'ai quelques scrupules à signer la relation de cette singulière histoire. Dans l'exposé tout impersonnel que je vais en faire, je n'eus souci que de mettre en ordre les documents que j'ai pu recueillir et de m'effacer devant eux. Voici comment La Vie illustrée présentait à ses lecteurs, en 1901, l'étrange affaire qui va nous occuper. Les drames cachés, la séquestrée de Poitiers. À Poitiers, dans une rue calme et paisible, au nom monacal, la rue de la Visitation, vivait, universellement honorée dans la région, une famille de haute bourgeoisie. Madame veuve Bastian, née de Chartreux, de lignée poitevine fort aristocratique, habitait là avec son fils, M. Pierre Bastian, ancien sous-préfet de Puget-Théniers au 16 mai. Madame Bastian de Chartreux, âgée de 75 ans, demeurait dans la maison où elle avait vécu avec son mari, ancien doyen de la faculté des lettres de la vieille cité provinciale. Son fils, marié à une Espagnole, de tempérament moins calme que le sien, était revenu seul à Poitiers. Il habitait dans l'immeuble qui fait face à celui de sa mère. Un troisième personnage appartenait à cette famille, une fille, Mélanie, qu'on avait vue enjouée et rieuse jusqu'à l'âge de 25 ans et qui, brusquement, avait disparu. Maladie mentale, disait-on. Madame Bastian de Chartreux l'avait internée, dès l'abord, dans une maison de santé, puis, par dévouement, par charité chrétienne, elle la reprenait et la soignait, toute d'abnégation, avec le concours d'une vieille bonne, par-delà les volets clos de la maison douloureuse, dont personne ne franchissait plus le seuil. Même la vieille bonne, Madame Renard, restée 40 ans chez ses patrons, avait obtenu il y a 6 ans, sur la demande de M. Pierre Bastian, qui, lui aussi, respectueux de son demi-sang bleu, se faisait appeler de Chartreux, une médaille de la Société de l'encouragement au bien. Ce fut un prix de vertu qui honora à la fois la vieille domestique et ses très vertueux maîtres. Mais la vertueuse Madame Renard mourut, et de nouvelles servantes entrèrent dans la maison. Cette étrange maison, dont certaines fenêtres étaient cadenassées dans ses volets, à l'extérieur, et qui, parfois, laissait passer des cris étouffés et lointains. Or, une des bonnes, dans cette sévère demeure, ne dédaignait point de recevoir, la nuit étant venue, un soldat vigoureux, ordonnance d'un lieutenant de la garnison. Ce guerrier, plus apte à manier le plumeau et la brosse à reluire que la baïonnette et le fusil, n'avait pas la discrétion de Madame Renard, et n'ignorait point que les lettres anonymes compromettent peu leurs auteurs. Il en écrivit une, et par là, le parquet, servi à Poitiers par une police peu curieuse, apprit 1. Que Mademoiselle Mélanie Bastian n'était point folle. 2. Qu'elle était tenue en état de réclusion depuis 24 années dans une chambre sordide, la chambre plaintive au volet cadenassé, dont elle ne sortait jamais, et où elle vivait parmi les ordures, la vermine, les vers et les rats, dans l'obscurité la plus complète et presque sans nourriture. Tardivement, ces messieurs de la magistrature, qui respectaient fort la bien-pensante famille Bastian, comme tout le monde la respectait d'ailleurs, durent prendre de l'émoi. Ils intervinrent, forcèrent la porte et trouvèrent, étendue dans un galetas indéfinissable, la malheureuse créature. Les raisons, Voici ce qu'on raconte à Poitiers. Mademoiselle Mélanie Bastian, vers sa 25e année, aima et se donna. On pense qu'un enfant fut le fruit de ses amours. On croit encore que cet enfant fut supprimé. Et pour punir la pauvre fille de ce que le monde appelle une faute, et surtout pour qu'elle ne parle pas, la pure, l'honorable, l'excellente Madame Bastian de Chartreux enferma, pour jamais, aidée en cela par le silence de son digne fils, la pauvre Mélanie, dans le taudis où elle refusa de mourir et où l'on vient de la découvrir, après 24 ans. C'est un drame effroyable, un drame de préjugés, de respectabilité, de vertu exaspérée, une vertu basée sur la convention hideuse. Mais ce qui est plus abominable encore, c'est la lâcheté des témoins qui se lèvent en masse aujourd'hui et qui, pendant un quart de siècle, tant qu'il pouvait sembler moins anodin de parler, se sont férocement tus. La discrétion, il est vrai, est encore une vertu, et cette vertu-là, exaspérée et lâche, elle aussi, fut 24 années durant la complice criminelle de la cruelle vertu de Madame Veuve Bastian de Chartreux et de son fils, le sous-préfet bien pensant. L'on peut voir, dans le ton même de cet article, un reflet de l'indignation qui souleva tout aussitôt l'opinion publique à cette époque. Comment cette affaire, en apparence si monstrueuse, où la culpabilité de Madame Bastian et de son fils semblait d'abord si évidente, put-elle aboutir à un acquittement des inculpés? C'est ce que l'on comprendra sans doute en lisant tout ce qui va suivre. Chapitre 1er. Le 22 mai 1901, le procureur général de Poitiers recevait donc une lettre anonyme, datée du 19 mai, ainsi conçue. Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous dénoncer un fait d'une exceptionnelle gravité. Il s'agit d'une demoiselle qui est enfermée chez Madame Bastian, privée d'une partie de nourriture, vivant sur un grabat infect depuis 25 ans. En un mot, dans sa pourriture. Au reçu de cette lettre anonyme, le commissaire central de police de Poitiers, sur l'ordre et avec les instructions du procureur, se rendit 21 rue de la Visitation, le 23 mai à 2h30. Une des deux bonnes que Madame Bastian employait à son service, la fille Dupuis, répondit à un coup de sonnette. « Madame Bastian. Madame ne reçoit pas, elle est alitée. Veuillez, s'il vous plaît, dire à Madame Veuve Bastian que je suis le commissaire central et que je désire absolument lui parler. » La servante monta alors au premier étage. Elle revenait quelques instants plus tard, disant « Monsieur, Madame vous prie de vous adresser à son fils, qui demeure en face. » Monsieur le commissaire central vint alors frapper à la porte de Monsieur Pierre Bastian, mais on lui répondit tout d'abord que Monsieur Bastian était également indisposé. « C'est bien bizarre, reprit Monsieur le commissaire central, que tout le monde soit indisposé dans ces deux maisons. Dites à votre maître que je suis le commissaire central et que j'ai une communication importante à lui faire. » Monsieur le commissaire central fut reçu par Monsieur Pierre Bastian. Il lui dit « Une lettre anonyme dénonce Madame votre mère comme ayant séquestré votre sœur Mélanie, qui serait depuis 25 ans au lit au milieu d'une pourriture infecte. Cette lettre ajoute que la fenêtre de la chambre est cadenassée. En effet, en arrivant auprès de la demeure, je viens d'apercevoir, au second étage, une fenêtre dont les persiennes sont closes. Voudriez-vous me mettre en présence de votre sœur ? Qu'êtes-vous donc ? Interrogea Monsieur Bastian. Je suis le commissaire central, votre bonne a dû vous le dire. Ce que l'on vous a raconté, reprit Monsieur Bastian, est une affreuse calomnie. Je suis tout à fait étranger à cette histoire. Du reste, ma mère et ma sœur habitent ensemble dans une maison autre que la mienne. Respectueux des volontés de ma mère, qui entend être maîtresse chez elle, je ne me mêle en rien à ses affaires. Quoi qu'il en soit, interrompit monsieur le commissaire central, je tiens à me rendre compte moi-même de visu. La meilleure façon de vous justifier, monsieur, c'est de me laisser voir votre sœur, de lui parler. Je ne puis vous la laisser voir sans avoir préalablement appelé le docteur. Celui-ci seul saura dire si vous pouvez pénétrer sans inconvénient dans sa chambre. Ma sœur est atteinte depuis une dizaine d'années d'une fièvre pernicieuse et ne doit recevoir personne. Répondant aux questions du commissaire, M. Pierre Bastian fit connaître son âge, 53 ans, et ses qualités, docteur en droit et ancien sous-préfet. L'âge de sa sœur Mélanie, 52 ans. Madame Bastian n'avait pas d'autres enfants. Pierre Bastian dit au surplus que sa sœur n'était nullement abandonnée. Il l'allait voir lui-même plusieurs fois par jour. Il protesta contre la dénonciation dont sa mère était l'objet et dit qu'il en référerait au procureur de la République. Le commissaire lui fit alors observer que le meilleur moyen de réduire la calomnie était de l'introduire sans plus tarder dans la chambre de Mademoiselle Bastian. Il avait pu observer du dehors que les volets d'une chambre du deuxième étaient maintenus fermés par une chaîne, ce qui donnait quelque vraisemblance aux dénonciations de la lettre anonyme. Pierre Bastian se montra prêt à consentir, mais il devait préalablement obtenir l'autorisation de sa mère, qui décidait de tout dans la maison. Accompagné du commissaire, il se rendit donc auprès d'elle. Madame Bastian hésita longtemps, puis, sur l'insistance du commissaire, finit par acquiescer. « Monsieur Pierre Bastian, dit le commissaire, nous conduisit au deuxième étage, dans une chambre éclairée par une seule fenêtre donnant sur la cour. Nous nous trouvons alors dans une demi-obscurité et dans un air vicié, au point de nous obliger à sortir immédiatement de cette pièce, non sans avoir constaté pourtant que les persiennes de cette fenêtre sont fermées et reliées par une chaîne munie d'un cadenas, que la fenêtre est elle-même hermétiquement fermée et garnie de bourrelets à tous les joints. Nous pénétrons à nouveau dans la pièce et cherchons à ouvrir la fenêtre pour donner de l'air, mais nous en sommes empêchés par M. Bastian, qui nous dit que cela contrarierait sa sœur. Nous constatons aussi que sa malheureuse sœur, que l'on ne peut apercevoir, est couchée sur un mauvais grabat et recouverte d'une couverture, le tout d'une saleté repoussante, que sur ce même grabat courent des insectes et de la vermine prenant leur nourriture dans les déjections sur le lit de cette malheureuse. Nous cherchons à découvrir son visage, mais elle se cramponne à sa couverture qui l'enveloppe entièrement en poussant des cris aigus comme une sauvage. Ne pouvant plus tenir dans la pièce, qui est elle-même d'une malpropreté repoussante, nous nous retirons et interrogeons les deux bonnes. Ce même jour, à 5 heures, monsieur le juge d'instruction Dufresnel vint à son tour visiter la chambre. Après les premières constatations qui concordent avec celles du commissaire, il ajoute « Nous donnons immédiatement l'ordre d'ouvrir la croisée. Cette opération s'effectue très difficilement. De vieux rideaux de couleur sombre tombent en dégageant une poussière considérable. Pour ouvrir les persiennes, il faut les enlever de leur gond de droite. Dès que le jour est entré dans la chambre, nous apercevons dans le fond, étendu sur un lit, le corps et la tête recouverts d'une couverture d'une saleté repoussante, une femme que Pierre Bastian nous dit être Mademoiselle Mélanie Bastian, sa sœur. La malheureuse est couchée toute nue sur une paillasse pourrie. Tout autour d'elle s'est formée une sorte de croûte faite d'excréments, de débris de viande, de légumes, de poissons et de pain en putréfaction. Nous voyons aussi des coquilles d'huîtres, des bêtes courant sur le lit de Mademoiselle Bastian. Cette dernière est couverte de vermine. Nous lui parlons, elle pousse des cris, elle se cramponne à son lit tout en cherchant à couvrir davantage sa figure. La maigreur de Mademoiselle Bastien est effrayante. Sa chevelure forme une natte épaisse qui n'a point été peignée et démêlée depuis longtemps. L'air est tellement irrespirable, l'odeur qui se dégage de l'appartement est tellement fétide qu'il nous est impossible de rester plus longtemps pour procéder à d'autres constatations. Monsieur le juge d'instruction décida d'envoyer aussitôt Mademoiselle Mélanie Bastien à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Comme elle ne possédait ni linge de corps, ni effet d'habillement, il la fit ficeler dans une couverture, puis ordonna que l'on désinfectât la chambre, dans la mesure du possible. À 6 heures, des scellés furent mis sur la porte. Avant de quitter la maison, ajoute le juge d'instruction, nous procédons à la visite des pièces qui sont habitées. La salle à manger est convenablement meublée, la cuisine est bien tenue, l'escalier est propre. La chambre de la dame veuve Monnier est en désordre, mais nous constatons qu'elle n'est point sale. Le mobilier est en bon état, le lit est confortable, les couches, les draps et les couvertures sont très propres. Madame Bastien, mère, qui est âgée de 75 ans, est vêtue d'une robe de chambre à petits carreaux noirs et blancs. Elle est coiffée d'un bonnet blanc tuyauté. Le tout est soigné, elle est bien peignée, elle présente en un mot l'aspect d'une femme qui ne néglige pas les soins de sa propreté intime. Monsieur le juge d'instruction retourna le lendemain à 3 heures dans la chambre à peu près désinfectée pour procéder, malgré l'odeur encore très forte, à des constatations que la puanteur de la pièce ne lui avait pas permis de faire le premier jour. La chambre mesure 5,40 mètres sur 3,40 mètres, la fenêtre 1,60 mètres sur 0,98 mètres. Le mobilier comprend 1. À droite, près de la porte, une commode sans tiroir. 2. Deux étagères de bois blanc, disposées à droite et à gauche de la cheminée en marbre noir. Sur celle de droite se trouvent 4 bouteilles vides, 3 boîtes de conserve, un jeu de loto et 2 écrous. Sur celle de gauche, fermée par une toile à matelas en lambeaux, aucun objet. Mais les coins sont garnis d'épaisses toiles d'araignée. Sur la cheminée, une statuette de la Vierge. 3. Un lit en fer devant la commode. Les draps et les couvertures sont propres. C'est là que couche une des 2 domestiques. 4. Devant l'étagère de gauche, un bois de petit lit couvert d'une paillasse et de vieilles guenilles souillées. 5. Une monture de canapé sur laquelle se trouvent des chiffons et des loques remplis de vermine. 6. 6 chaises de paille, dont 4 en assez bon état. 7. Enfin, le lit en bois de Mademoiselle Bastien, contenant une paillasse pourrie, un drap plié en 4 pour recevoir les excréments, un vieil oreiller, placé entre ce drap et la paillasse, une couverture d'une effroyable saleté. Le lit est recouvert d'une espèce de pâte formée d'excréments, de débris de viande, de légumes, de pain en putréfaction. Au pied du lit, un carré de linoléum extrêmement sale. Le plancher est rongé. Près du mur, un trou de 32 cm de long sur 5 cm de large. Un autre trou à hauteur du lit permettant la circulation des rats. Entre le lit et l'étagère de gauche, une petite caisse remplie de vieux livres est recouverte, ainsi que tout le reste, d'une épaisse couche de poussière. La tapisserie a presque disparu. Les murs ont été autrefois tapissés d'un papier gris-bleu à carreaux marron et bleu foncé. Ils sont actuellement à peu près dégarnis. De nombreuses inscriptions restent assez difficilement déchiffrables. On parvient pourtant à lire l'une d'elles. « Faire de la beauté, rien de l'amour et de la liberté. Solitude toujours. Il faut vivre et mourir au cachot toute la vie. » Le 25 mai, à 9 heures du matin, le commissaire procéda à la saisie des objets ci désignés. Une couette, en partie pourrie, un oreiller, pourri, adhérent à celle-ci, ainsi que diverses autres parties de guenilles soudées entre elles par les déjections, débris d'aliments de toute espèce, mélangés à une grande quantité d'insectes. On nous enveloppe le tout dans un drap blanc prêté par la famille. Une couverture blanche à raies rouges, une couverture jaune qui recouvrait la séquestrée, un oreiller, une couverture à raies bleues, une guenille fraîchement lavée, un couvre-pied fond blanc à fleurs bleues, une autre vieille couverture à raies rouges, une toile à matelas placée en double à la fenêtre et servant de rideau, un morceau de couverture à raies vertes, une vieille guenille ayant servi à mettre sous la demoiselle Bastien, un linge blanc souillé de matière fécale, un drap de lit plié en huit et sur lequel reposait en partie le corps de la victime. Un journal contenant des résidus d'aliments, journal fourni par nous, divers autres débris d'aliments qu'on enveloppe dans un papier et qui, comme les derniers, sont tombés du lit au moment de l'opération de saisie. Ces sudis objets sont placés dans une caisse. Une paillasse en partie pourrie que l'on enveloppe dans une toile d'emballage et une couchette que l'on divise en cinq colis. Deux persiennes reliées par une chaîne qui est retenue au moyen d'un cadenas. Une malle dans laquelle nous déposons 37 volumes trouvés sur les rayons de sa chambre. Un cabas d'écolier contenant des cahiers et une grande quantité de notes écrites au crayon. Dans la même malle, nous déposons aussi un cadenas fermé à un bout de chaîne. Deux statuettes de la Sainte Vierge, une tête de poupée, un chapelet, une pièce de 10 centimes et 5 bouts de crayon trouvés sur et sous son grabat. Une porte de la chambre de la victime, récemment réparée, le cadre de la susdite porte, un bocal contenant les insectes représentant environ de 5 à 10% de ceux trouvés sur le lit de Mélanie Bastien. Une couverture blanche, un papier de la tapisserie du couloir portant ces mots « des les enfants, il y en a qui sont bien plus préférés, etc., etc. » Et enfin, une natte de cheveux appartenant à Mélanie Bastien, pesant 2,70 kg. Ses cheveux lui ont été coupés à son arrivée à l'Hôtel-Dieu. Si longue que puisse paraître cette énumération, nous n'avons pas craint de la rapporter tout entière, regrettant qu'elle ne fût pas plus complète encore. Nous aurions aimé connaître, par exemple, les titres des 37 volumes saisis et la nature de ces notes écrites au crayon signalées dans ce rapport. Nous avons pu juger récemment de l'éloquence particulière des objets dans le récit du général Dittérick au sujet de la saisie effectuée dans la petite pièce de la maison Ipatiev à Ekaterimbourg. Tous ces objets sont des témoins et leur déposition nous instruit autant et plus ingénument que celle des témoins vivants que nous allons bientôt entendre. Mais nous écouterons d'abord les accusés. Chapitre 2. Madame Bastien et son fils furent arrêtés le 24 mai après-midi. Nous présenterons plus loin tous les renseignements que nous avons pu obtenir sur ces deux déconcertantes figures. Écoutons d'abord Pierre Bastien à l'interrogatoire du président, audience du 8 octobre 1901, voir Journal de l'Ouest du 10 octobre. D. Dès 1875, le docteur Guérineau constatait que votre sœur Mélanie était incapable de se conduire. Sa chambre était sale, votre sœur vêtue de façon malpropre. Elle était soignée par la femme Fazi, qui mourut en 1896. R. C'est exact. D. L'état de votre sœur s'aggravant, votre mère fit fermer les portes. Après la mort de la femme Fazi, nous assistons à un défilé de bonnes qui ne consentent pas à rester en semblable milieu. Votre sœur ne sort plus de sa chambre, elle réclame sa liberté, elle appelle, jusqu'au moment où la police la trouve, en mai 1901. R. Tout cela est vrai. D. Le commissaire central arrive. Vous avez fait des difficultés pour le laisser pénétrer dans la chambre de votre sœur. R. Non, mais j'ai voulu avoir l'autorisation de ma mère. Aucune objection de ma part. D. Pourtant, vous avez dit que votre sœur était atteinte de fièvre pernicieuse. Vous avez invoqué votre situation sociale, vos titres anciens. R. Jamais il n'a été dans ma pensée d'empêcher d'entrer monsieur le commissaire central. Monsieur le président donne lecture du procès-verbal de constat. D. N'êtes-vous pas impressionné? R. Je suis épouvanté, mais jamais je n'ai vu que l'extérieur. Sachant Mélanie toute nue, jamais je ne l'ai regardée par un sentiment de pudeur. Jamais je n'ai vu que sa chevelure. D. Alors cet état de choses est tout nouveau pour vous. R. Je ne me le figurais pas, j'étais loin de le penser. D. Votre sœur, transportée à l'Hôtel-Dieu, manifesta le plaisir d'être nettoyée, de respirer un air pur. Elle s'écria « Comme c'est beau !» R. Tout le temps qu'elle est restée chez sa mère, Mélanie a eu en grande aversion la lumière. Elle ne pouvait pas la supporter. C'était conforme à ses instincts. D. Vous n'aviez qu'à faire acte de volonté. R. Ma mère était maîtresse chez elle. D. À l'Hôtel-Dieu, on a constaté que votre sœur était très pudique, très sage. Pourquoi donc alors ces mesures de protection? R. Ces mesures remontent fort loin. C'est feu mon père qui les a prises. D. J'ai vu dans le dossier qu'on ne voulait rien faire contre son gré. De Mélanie ou de Madame Bastien, mère, la phrase reste ambiguë. R. Oui, pour éviter des scènes terribles. D. Vous ne deviez pas oublier que vous aviez affaire à une folle. Raison de plus pour lui imposer des soins, qu'elle a du reste agréé avec plaisir à l'Hôtel-Dieu. R. J'avais confiance dans les domestiques. D. Votre sœur était bien nourrie, si on peut dire cela d'une personne à laquelle on offre quelque chose sans chercher à savoir si elle le mangeait. R. C'était là le devoir des bonnes. D. Vous alliez voir parfois votre sœur. R. Oui, je cherchais parfois à la distraire, mais la conversation était difficile. D. Dans ces moments de lucidité, que disait-elle? R. Je ne puis répondre que ceci. Souvent, j'ai demandé à ma mère de mettre ma sœur dans une maison de santé. Auprès de la fenêtre, je lisais le journal de la Vienne. Jamais je n'ai été incommodée par l'odeur. Nous reviendrons plus tard sur cette dernière affirmation. Suivent plusieurs demandes et réponses où Pierre Bastien répète qu'il ne s'est jamais rendu compte de l'état affreux d'abandon où était laissée sa sœur. D. Vous avez proposé à votre mère, disiez-vous, de mettre votre sœur dans une maison de santé. Pourquoi n'avez-vous pas agi? R. J'ai tellement insisté que ma mère m'a mis à la porte. D. Quels étaient vos rapports avec votre mère? R. J'avais pour elle un grand respect filial, mais entre nous il y a toujours eu conflit, soit au point de vue des intérêts, soit quand il s'agissait de ma sœur. D. Vous vous incliniez devant votre mère, mais n'y avait-il pas des questions délicates? R. J'ai le cœur trop haut placé pour m'abaisser à des bassesses. À une question du président, Pierre Bastien dit qu'il n'a ni bon odorat ni bonne vue. Dans la rue, il ne reconnaît même pas ses amis. D. Cependant, vous écrivez. Vous faites de la peinture d'après nature. R. Dans mes aquarelles, il y a une grande différence entre mes tableaux et l'original. D. On vous reproche de n'avoir rien tenté pour mettre un terme à la situation de votre sœur. Vous avez voulu qu'elle continuât à gémir sur un immonde fumier. R. Jamais je n'ai eu pour ma sœur que des sentiments d'affection et de dévouement. C'est sur cette phrase que prit fin l'interrogatoire. En plus de la saisie opérée dans la chambre de Mélanie Bastian, le juge d'instruction prit dans le cabinet de travail de M. Bastian et déposa au greffe du tribunal comme pièce à conviction. 1. Un cahier cartonné portant les suscriptions suivantes. Secours aux blessés militaires. Comité central de Paris. Liste des anciens soldats blessés ayant sollicité un secours de la Société de la Croix-Rouge, domiciliés à Poitiers ou dans le département de la Vienne. 2. Une liasse de documents enfermés dans une chemise verte portant la suscription « Société Saint-Vincent-de-Paul ». 3. 56 aquarelles faites par M. Bastian, renfermées dans une chemise verte. 4. 54 dessins au crayon ou aquarelle faits par M. Bastian et renfermés dans une chemise verte. 5. Un projet d'article nécrologique concernant M. le comte de T. 6. Les notes de la conférence faites par M. Pierre Bastian le 16 mai 1896 sur l'assistance aux soldats blessés avant la Convention de Genève et pendant la guerre de 1870. 7. Une feuille de papier écolier qui se trouvait sur le bureau de M. Bastian et sur laquelle on lisait « Nous tenons à donner à nos lecteurs des renseignements précis qui établissent sous son véritable jour l'affaire qui a jeté dans notre ville une si vive émotion en mettant en question la responsabilité d'un de nos plus sympathiques concitoyens. » Ce commencement d'article est de la même écriture que celle de tous les documents saisis. Interrogé une autre fois, Pierre Bastian dit encore « Les inscriptions qu'on a relevées, tracées sur le mur de la chambre que ma sœur occupait avant 1882, ces inscriptions où il est surtout question du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie n'ont aucune importance. » Je reconnais cependant qu'elles indiquaient dans l'esprit de ma sœur des pensées religieuses que j'attribue à des hallucinations. Je dois dire que jamais ma sœur ne m'a fait connaître son désir d'entrer en religion. Et à propos d'autres inscriptions, tracées par Mélanie Bastian sur les murs de l'autre chambre qu'elle occupa après 1882, date de la mort de M. Bastian père, inscriptions relatives à la liberté ravie et à la solitude, une phrase en particulier. Il faut vivre et mourir en cachot toute la vie. Pierre Bastian répond. Ce sont des phénomènes psychologiques que je ne cherche pas à expliquer. Du reste, j'attachais si peu d'importance aux inscriptions qui étaient sur les murs que je ne les ai même pas lues. D. Il résulte de la déposition de plusieurs témoins que votre sœur faisait souvent entendre des cris et des appels au milieu desquels étaient distinctement perçus les mots de « police »,« justice »,« liberté » et de « prison ». M. Jacob a, le 16 août 1892, entendu les paroles suivantes. « Qu'ai-je fait pour être enfermé? Je ne mérite pas ce supplice horrible. Dieu n'existe donc pas qu'il laisse souffrir ses créatures ainsi, et personne pour venir à mon secours. » R. Tous ces cris n'ont aucune signification. Dans la bouche de ma sœur, ces paroles n'ont aucune valeur. Elle ne les prononçait que dans les moments de crise et de démence. Devant moi, elle n'a jamais appelé au secours ou réclamé sa liberté. J'ai simplement constaté qu'elle employait des expressions très ordurières, notamment le mot « m » au milieu de ses fureurs. Elle paraissait s'adresser à un être imaginaire. Il était impossible de lui faire entendre raison. Plus on lui parlait, et plus elle s'emportait. D. Comment expliquez-vous que ces surexcitations et ces fureurs aient tout à coup cessé, dès l'admission de votre sœur à l'Hôtel-Dieu, pour faire place à une douceur qui ne s'est pas démentie un instant? R. Il est probable que la grande émotion qu'elle a traversée aura provoqué dans sa folie une crise salutaire. On demande à Pierre Bastian comment il se fait que Madame Pierre Bastian n'ait jamais revu sa belle-sœur depuis l'époque de son mariage, 1874. Et comment se fait-il que votre fille n'ait jamais vu sa tante ? R. Une raison d'ordre moral a déterminé ma mère à empêcher sa belle-fille et sa petite-fille de voir ma sœur. Cette dernière employait des mots très orduriers. J'ai partagé, dans une certaine mesure, le sentiment de ma mère, et je n'ai pas insisté. Interrogée à son tour, Marie Dolorès Bastian, fille de Pierre Bastian, dit « Deux fois par semaine, j'allais chez ma grand-mère, le jeudi et le dimanche, vers 3 heures. Souvent, je n'étais pas reçue. Quand j'étais admise auprès d'elle, la conversation languissait vite. Elle m'entretenait uniquement des difficultés qu'elle avait avec ses domestiques et de ses maladies. N'étant pas habituée à recevoir d'elle des caresses, j'étais paralysée en sa présence et je ne disais pas grand-chose. L'entretien durait environ une demi-heure et je partais, après avoir demandé, quand j'y songeais, des nouvelles de ma tante Mélanie. Ma grand-mère me répondait toujours « Elle va bien ». Écoutons à présent Madame Bastian, mère. « Jamais je n'ai songé à séquestrer ma fille, que j'aimais tant. Elle a toujours été libre de circuler dans la maison. Mais je dois dire que depuis 25 ans, elle s'est volontairement enfermée dans sa chambre. Je peux même ajouter « dans son lit », car je crois que depuis 1876, peut-être même avant, elle s'est obstinée à rester dans son lit, malgré mes efforts et ceux de mon mari pour lui faire prendre l'air. Elle a toujours été d'une santé très délicate. Malgré cela, elle a pu faire ses études. Elle aimait le travail et surtout la lecture. Jeune fille, elle a peu fréquenté le monde. Elle aimait surtout à fréquenter les églises, et je pensais qu'elle avait la vocation de religieuse. Il n'a jamais été question pour elle d'aucun projet de mariage. Je suis au surplus convaincue qu'elle n'aurait jamais voulu se marier. En 1872, je crois, ma fille a été atteinte d'une fièvre pernicieuse très grave et qui a mis ses jours en danger. Depuis lors, elle n'a plus voulu voir personne. Cependant, elle est allée à Mont-de-Marsan, au mariage de son frère qu'elle aimait beaucoup. Peu après son retour à Poitiers, elle est restée constamment enfermée dans sa chambre. Elle a refusé de mettre des vêtements sous prétexte qu'elle n'avait pas la force de les porter tant elle était faible. Elle mangeait très peu et était déjà extrêmement maigre. Elle n'était point folle, mais elle avait des allures très étranges. Elle ne voulait pas coucher dans des draps. Elle refusait de porter une chemise. Elle n'était heureuse que lorsqu'elle était entièrement recouverte d'une couverture. Il y a déjà plusieurs années que le médecin ne vient pas la voir, car elle n'était pas malade. Quand on lui décrit l'état où on a trouvé sa fille, elle répond que depuis 3 mois, souffrante, elle n'allait plus la voir. Auparavant, elle montait 2 fois par jour. Elle avait vu toute la saleté, mais Mélanie ne voulait pas qu'on la touchât. D. Les domestiques vous ont souvent demandé de faire changer les couches et de laisser nettoyer votre fille. Vous avez toujours refusé. R. Ce sont des menteuses. Ce sont 2 drôlesses. R. Si j'ai commis une faute, ce n'était pas dans l'intention de faire mourir ma fille. Je me suis toujours sacrifiée pour elle. Madame Bastian entra dans la prison le 24 mai 1901, vers 6 heures du soir. On la mit immédiatement à l'infirmerie. Elle paraissait très souffrante. Pourtant, gardait quelque appétit et ne se plaignait pas trop. Le 6 juin, son état commença d'empirer. Elle protestait de son innocence, demandait qu'on la laissât partir, arguant que son fils avait déjà quitté la prison. Et à plusieurs reprises, malgré sa faiblesse et son état de prostration, s'occupa de rassembler ses affaires en paquets. La nuit du 7 fut très pénible. À 5 heures du matin, la malade demanda à boire. L'infirmière qui restait auprès d'elle, se rendant compte que la mort était proche, fit prévenir le gardien-chef, qui fit appeler l'aumônier et le docteur. Ce dernier arriva pour assister à l'agonie. Il fit de vains efforts pour ranimer Madame Bastian, qui s'éteignit tout doucement à 9h30. Quelques minutes avant l'arrivée du docteur, Madame Bastien s'était écriée « Ah, ma pauvre Mélanie !» Chapitre 3. Mélanie Bastien arriva à l'Hôtel Dieu de Poitiers le 23 mai 1901, vers 7h du soir. J'ai sous les yeux une grande photographie prise aussitôt après son entrée à l'hôpital, photographie que reproduisirent les grandes périodiques illustrées de l'époque. On n'imagine rien de plus impressionnant que le regard de cette pauvre fille et son sourire, car elle sourit, d'un sourire angélique, idyllique, mais comme futé, presque narquois. Elle est dans un état de saleté épouvantable, nous disent les témoins de l'époque. La face, d'une blancheur de cire, est très émaciée. Le corps, d'une maigreur excessive, recouvert par plaques d'une épaisse couche de crasse. Les ongles des mains et des pieds sont très longs. Les cheveux forment une masse compacte de plus d'un mètre de longueur, 30 cm de largeur et 4 à 5 cm d'épaisseur. C'est un feutrage compact formé par les cheveux mêlés aux matières excrémentielles et aux débris de nourriture. L'odeur qui se dégageait de cette masse était si épouvantable que les docteurs autorisèrent les personnes présentes à fumer. Cette masse de cheveux était toute du côté gauche, le côté droit de la tête ne présentant que quelques mèches qu'un frottement continuel avait réduites et usées par suite de la position que Mélanie Bastien avait conservée pendant tout le temps qu'elle était restée étendue sur son grabat, couchée sur le côté droit, recroquevillée sur elle-même. Le poids total de Mélanie Bastien à son entrée à l'hôpital était de 51,3 livres. L'on s'étonne que la pauvre fille ait pu vivre tant d'années dans un dénuement si sordide. Dans une obscure atmosphère, si empestée qu'elle fait reculer chacun. Son état de faiblesse, à son entrée de l'hôpital, était tel que l'aumônier, craignant un accident mortel immédiat, crut devoir lui administrer aussitôt le sacrement de l'extrême-onction. Mais, dès le lendemain, Mélanie Bastien commença d'aller sensiblement mieux. Elle accepta volontiers la nourriture qu'on lui apportait. Ses organes furent reconnus parfaitement sains par les médecins appelés en consultation. Mélanie Bastien répond assez bien à quelques questions précises et simples. Elle reconnaît les fleurs qu'on lui présente, se rappelle quelques souvenirs de jeunesse, et en particulier une propriété que possède sa famille à Migné. Mais bien souvent, elle refuse de répondre et envoie promener les personnes qui lui adressent la parole, en prononçant des gros mots et des injures. Si même on insiste pour obtenir d'elle une réponse, elle entre rapidement en colère et passe de son immobilité habituelle à un état d'agitation violente. Sa faiblesse générale l'empêche cependant de se livrer à des actes, et elle se contente de marmotter, en se cachant la figure dans son oreiller, des mots inintelligibles et des phrases sans aucun sens discernable, emmêlées de nombreux jurons. Une idée fixe revient presque toujours quand elle est contrariée. Elle veut retourner dans son ancienne demeure, qu'elle désigne par une phrase inintelligible. Sa chère bonne fond moulin en piâtre. Déjà, lorsqu'on était venu la chercher, rue de la Visitation, pour l'enlever à son taudis, elle se cramponnait à sa paillasse et à sa puante couverture, suppliant qu'on la laissât vivre tranquillement dans sa chère petite grotte. « Jamais, disent les rapports, elle ne pose la moindre question sur aucun sujet, et ne parle jamais des personnes qu'elle avait l'habitude de voir dans sa maison. La plupart du temps, elle ne consent à répondre qu'à celles qui lui donnent des soins journaliers et lui apportent à manger. Toutes ses réponses sont absolument enfantines. Elle reconnaît la plupart des objets qu'on lui présente, crayons, roses, verres, aliments, et les appelle toujours son cher petit crayon, sa chère petite rose, etc. Elle réclame même souvent son « cher petit torchon » dont elle se couvrait la tête pendant son séjour dans sa maison et qui était rempli de crasse et d'insectes. Elle n'a du reste pas la moindre idée des soins de propreté et satisfait tous ses besoins dans son lit ou dans les vêtements dont elle est revêtue. Cependant, elle a commencé le 18 juin à accepter de se servir d'un vase pour uriner. On a pu lui faire écrire avec un crayon et avec une plume son prénom et quelques mots. L'écriture est assez nette, mais elle fait suivre un mot bien écrit de griffonnages informes. L'appétit est excellent. Elle mange gloutonnement les mets qu'on lui présente. Ses repas sont très copieux. En fait, les pesées successives indiquèrent une très rapide augmentation du poids, qui passe de 25,5 kg le 25 mai à 35,5 kg le 3 août. Ses forces physiques augmentèrent proportionnellement, mais les facultés intellectuelles furent loin de suivre cette marche progressive. Mélanie, il est vrai, répondait un peu mieux à certaines questions, mais restait toujours indifférente aux choses extérieures et ne posait jamais de questions. L'abbé de Mondion, aumônier de l'Hôtel-Dieu, à plusieurs reprises vint s'entretenir avec elle. Il lui demanda si elle se souvenait de sa première communion. Mélanie Bastian lui répondit affirmativement et même put lui redire les noms des prêtres qui avaient fait son instruction religieuse. Elle se rappelle également le nom des anciens fournisseurs de sa famille, disant qu'elle n'achetait pas de bonbons chez Avenel, le pâtissier, mais chez Pasino, l'italien. Elle reconnaît et nomme toutes les fleurs qu'on lui présente et dont chaque jour des âmes charitables lui apportent de nombreux bouquets. « Rien ne lui fait plus plaisir, » ajoute l'abbé, « que de voir et de respirer ces fleurs. Elle est ravie d'apercevoir de son lit la campagne et fait part de sa joie en s'écriant « Oh, que c'est beau !» Quand les hirondelles passent, elle les reconnaît fort bien et s'écrie « Oh, voyez donc, les gentilles petites hirondelles !» Elle se montre extrêmement douce, écoute ce qu'on lui dit, fait tout ce qu'on lui commande, garde sur elle, sans chercher à l'enlever, son linge de corps, de sorte qu'une seule infirmière suffit à la surveiller. Lorsqu'on la laisse seule, ce qui arrive assez souvent, elle ne cause aucun désordre. Mais lorsque l'abbé lui demande si elle souhaite de revoir son frère et sa mère, Mélanie répond aussitôt « Oh, qu'on ne les apporte pas là !» Lorsqu'une autre fois l'abbé lui demande si elle se trouvait bien dans sa maison, Mélanie s'écrie « Ne parlons pas de ça, c'est une maison qui met tout en fuite, tout en fuite !» Je n'ai pas à faire ressortir l'extraordinaire inconséquence des réponses de Mélanie Bastian. Le lecteur s'en apercevra bien de lui-même. L'effort, inconscient ou non, par lequel nous cherchons, au cours d'un interrogatoire, à réduire ces inconséquences pour mettre un prévenu d'accord avec lui-même, cet effort reste parfaitement vain, et particulièrement dans le cas de Mélanie Bastian, qui tout à la fois semble se réjouir de l'air pur qu'elle respire enfin, de la propreté de son lit d'hôpital, de tous les soins dont elle est l'objet, et regretter pourtant sa couche sordide et l'obscurité méphitique de sa chère petite crotte, dont elle parle en termes attendris, qui semble devenir dans son esprit une sorte de lieu mythique qu'elle désigne d'une façon si bizarre que l'on hésitait d'abord à comprendre de quoi elle parlait lorsqu'elle disait et répétait « Je voudrais retourner dans mon cher grand fond Malampia », où il semble du reste qu'elle n'ait pas été aussi maltraitée qu'on avait pu craindre d'abord, car à l'hôpital, lorsqu'on lui servait du poulet, elle disait « On m'en donnait aussi dans mon cher grand fond Malampia ». J'ai assisté plusieurs fois au repas de Mademoiselle Bastian, nous dit un interne. Son premier mot, avant de toucher à ce qu'on lui offre, « C'est-il bien propre ?» Elle mange encore avec ses doigts, mais avec beaucoup de délicatesse. Et l'économe de l'Hôtel-Dieu. Lorsqu'elle mange une orange, elle sait très bien garder dans le creux de la main les pépins jusqu'à ce qu'on l'en débarrasse. Il me paraît qu'elle cherchait, au moins inconsciemment, à se mettre d'accord avec les personnes qui la venaient voir et l'interroger, ou cédait à une sorte d'instinctive sympathie. C'est ce qui permit à sœur Saint-Wilfred, religieuse à l'Hôtel-Dieu, de dire que, loin d'avoir horreur de la propreté, Mélanie prenait plaisir à être nettoyée, à coucher dans des draps bien blancs, et à avoir sur elle une chemise. Elle ne dit rien pendant qu'on lui coupait les cheveux, opération que le feutrage de la chevelure rendait particulièrement difficile. Elle eut plaisir, sitôt après, à se laisser nettoyer la tête avec une eau spéciale parfumée. Loin d'aimer les mauvaises odeurs, dit la sœur Saint-Wilfred, elle se réjouit du parfum des fleurs et de l'eau de Cologne que l'on répand sur tout son corps et sur sa couche. Quand on lui donne une matinée rose, elle manifeste une grande joie. En général, tout ce qui est très clair lui fait plaisir. Elle déteste au contraire tout ce qui est de couleur sombre. C'est ainsi qu'elle ne veut pas prendre les lettres bordées de noir et refuse de garder une bague qu'un interne s'amuse à lui passer au doigt parce que cette bague porte en chaton une pierre noire. Elle a été très heureuse de se revêtir de la matinée. Elle a accepté facilement des mules. Il a fallu insister pour lui mettre des bas, mais j'ajoute que la difficulté a été facilement vaincue. Une fois habillée, elle s'est regardée avec satisfaction et a contemplé surtout les rangs de passementeries qui garnissent le peignoir. Sa joie était grande. Elle a dit « C'est trop beau pour cette maison. Ce serait bien mieux pour aller dans cette chère bonne maison du grand fond Malampia. » L'excellente sœur ajoute ici « Sans doute, Mélanie Bastien faisait-elle allusion à une propriété de famille, car elle nous parle souvent de minier. » Mais nous croyons que Mélanie désignait par ces mots, nous l'avons dit, sa chambre sordide, ou du moins l'extraordinaire transposition qui s'était faite de cette chambre dans son esprit. Une fois installée dans le fauteuil près de la fenêtre, continue la sœur Saint-Wilfred, Mélanie a regardé la campagne en disant, comme les jours précédents, « Comme c'est beau !» Elle signale à la garde et à moi le passage des hirondelles en nous les nommant. Elle considère avec tant d'attention et pendant si longtemps avec le même plaisir visible les images et les fleurs qu'on lui apporte, qu'il semblait bien que Mademoiselle Bastien ait été privée depuis longtemps de pareils spectacles. Le lit occupé par Mademoiselle Bastien était placé en face de la fenêtre. Dès l'arrivée de Mademoiselle Bastien, la croisée est restée grande ouverte, la lumière et l'air pénétrant donc largement dans la pièce. J'ai constaté que dans les premiers moments, elle voulait cacher sa figure sous la couverture. Il est probable que la grande lumière lui fatiguait les yeux, car dès le lendemain, elle n'a plus cherché à cacher entièrement sa figure. Elle s'est contentée de relever avec la main gauche le drap jusqu'à hauteur des yeux. Elle garde encore cette manie, mais cependant, très souvent et surtout lorsqu'elle prend ses repas, la figure est complètement à découvert. Pas une seule fois elle n'a demandé, et elle sait très bien réclamer ce qui lui fait plaisir, que la fenêtre ou les contrevents fussent clos. Habituée depuis longtemps à se soulager dans ses draps, on eut quelque mal à lui faire prendre d'autres habitudes. Pourtant, depuis la semaine dernière, dit sa garde Amélie Raymond, le 22 juin, Mademoiselle Bastien a encore fait des progrès, elle est de plus en plus propre. Pendant le jour, elle me demande le vase, et sait fort bien attendre lorsque je suis occupée. L'interne de l'Hôtel-Dieu confirme les dépositions des témoins et nous dit encore « Comme toutes les personnes qui l'ont entendue, j'ai constaté qu'elle parlait souvent patois et qu'elle employait des expressions très ordurières. Au début, Mademoiselle Bastien paraissait très affaissée et ses réponses étaient souvent incompréhensibles. Elle éprouvait de la difficulté à préciser sa pensée. Mais depuis 3 ou 4 jours, Ceci fut dit le 8 juin. Un changement notable s'est produit. Elle s'est très bien demandé ce qu'elle veut pour son repas. Ce matin, elle m'a dit qu'elle voulait manger du cher petit poulet, des chers petits brocs, fraises, et un cher petit macaron au chocolat. J'ai inscrit le menu sur mon carnet et elle l'a très bien lu. Je dois vous faire remarquer, si on ne vous l'a déjà dit, que Mademoiselle Bastien a l'habitude de faire précéder chaque mot de « ce cher petit » ou de « cette chère petite ». Elle commence à dire un peu moins de gros mots. Elle mange avec plaisir les quartiers d'orange que lui donne cette interne de service. Son plaisir est encore plus grand quand une des sœurs qui la veille d'habitude lui présente un bouquet composé de différentes fleurs. Alors elle regarde longuement, aspire à plein poumon et, comme le ferait un enfant, embrasse le bouquet et la main qui le porte. Elle dit à ce moment d'une voix un peu rapide « Oh, comme ce serait beau si l'on avait deux bouquets pareils avec une grotte au milieu et une petite vierge dans la grotte. Il faudra faire ça une autre fois. » L'image de la grotte la hante, se rattache à son esprit, au souvenir de sa chambre de la rue de la Visitation, et peut-être à je ne sais quelle idée mystique. Madame Bastien-Mère mourut, nous l'avons dit, dans la nuit du 7 juin. La supérieure de l'hôpital crut devoir annoncer elle-même ce deuil à Mélanie Bastien. « J'ai une triste nouvelle à vous apprendre, mademoiselle Mélanie, » lui dit-elle. « Votre mère est morte. »«
Je veux me régaler, je veux me régaler, »
a simplement répondu la malade en jetant un regard de convoitise sur son repas. Raconte le journal de l'Ouest du 11 juin.
« Cependant, mademoiselle Mélanie, écoutez-moi bien, » reprit la supérieure avec un ton de douceur infinie. « Lorsque vous rentrerez chez vous, vous ne trouverez plus votre mère. »«
Peu, peu, je veux me régaler, je veux me régaler. »
Et cette réponse fut toujours la même. Que l'on parlât à mademoiselle Mélanie des vêtements de deuil qu'elle devait revêtir, ou qu'on lui exposa le chagrin que son frère Pierre pourrait ressentir. Le 17 juillet, Mélanie Bastien répond ainsi aux questions qu'on lui pose. D. Voulez-vous répondre aux questions que je vais vous poser?
R. Je ne veux rien répondre du tout.
D. Avez-vous reçu hier quelques visites?
R. Quelques dames avec de jolies toilettes que j'ai pu regarder.
D. Êtes-vous allé vous promener dans le jardin et vous sentez-vous la force d'y aller?
R. Non, je n'y suis pas allé. Je pourrais sortir plus tard, me promener dans le petit jardin de cher mon grand fond et à Migné.
C'est à Migné que se trouve le pilé propriété de la famille Bastien.
D. Vous souvenez-vous de Juliette Dupuis et d'Eugénie Tabot?
R. Je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Tant pis pour elles.
D. Connaissez-vous Carcassonne et Montpellier?
R. Tout cela, c'est beaucoup trop loin.
D. Vous souvenez-vous de votre chambre à Cherbon-Grandfond?
R. Mademoiselle Bastien fait entendre des sons inarticulés. Il est impossible de comprendre ce qu'elle dit. Elle paraît en colère.
D. Votre frère vous disait-il quelquefois le journal?
R. Il ne faut pas qu'il vienne ici. Il est bien où il est.
D. Ne voulez-vous pas voir votre frère?
Mademoiselle Bastien répond très en colère qu'il reste où il est très bien. Comme on dicte sa réponse, au mot « en colère », Mademoiselle Bastien dit « C'est un péché, on ne doit pas s'y mettre. »
D. Auriez-vous plaisir à voir Madame Pierre Bastien?
R. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, qu'elle reste où elle est.
D. Voudriez-vous voir Mademoiselle Dolores Bastien, votre nièce?
R. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, tant pis pour elle, tant pis pour tout le monde.
D. Connaissez-vous Marie Fazi?
R. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue.
D. Ne savez-vous pas qu'elle est morte? Mademoiselle Bastien prononce un certain nombre de phrases inintelligibles. Elle paraît à ce moment fatiguée. Au point de vue physique, les progrès continuent à être rapides, mais la raison ne revient pas. Elle ne jouit pas de ses facultés. Elle tient des propos extravagants et sans suite. Nous avons conclu à une faiblesse intellectuelle. C'est une aliénée, il n'y a pas de doute, déclare le docteur Lagrange, médecin aliéniste à Poitiers. Par contre, M. l'abbé de Mondion, le très sympathique aumônier de l'hôpital de Poitiers, proteste contre cette accusation de folie. « Je trouve fâcheux, écrit-il dans le journal de l'Ouest du 5 juin, qu'il se rencontre, dans le parti religieux, des personnes qui voudraient excuser ou innocenter ce crime. J'estime au contraire qu'il faudrait dégager complètement le parti religieux et conservateur de cette affaire. Je voudrais aussi préciser un point. Dans le but d'innocenter les coupables, on a dit que Mademoiselle Mélanie était folle et qu'elle avait la passion de se découvrir. Elle est chez nous depuis 9 jours et nous avons remarqué qu'elle a la passion de se couvrir. Si l'on s'approche trop près d'elle, elle se retire et ramène à elle les couvertures. Elle a en somme le sentiment de la pudeur. En résumé, on ferait bien mieux de laisser la justice se prononcer que de chercher à innocenter un crime épouvantable. J'ai dit, et je répète, que ceux qui ont laissé une inconnue, une fille ou une sœur, dans l'état pitoyable où se trouvait Mademoiselle Mélanie en entrant à l'hôpital, sont des criminels. D'autant que la victime est douce, tranquille et sage. Les fenêtres sont ouvertes et elle n'a jamais donné le moindre signe de folie méchante ou dangereuse. Qu'elle soit dans un état de dépression physique et intellectuelle, c'est ce qui n'a rien d'étonnant, puisqu'elle est restée tant d'années sans air, sans lumière et presque sans nourriture. Nous tâcherons de comprendre un peu mieux ce que furent ces criminels, cette mère et ce frère, que d'autre part, l'on nous présentera comme de si honnêtes gens. Quels furent les motifs de leur crime? Ce qui me paraît si particulièrement intéressant dans cette affaire, c'est que le mystère, à mesure que nous en connaissons mieux les circonstances, s'approfondit, quitte les faits, se blottit dans les caractères, aussi bien du reste dans le caractère de la victime que dans le caractère des accusés. Nous tâcherons de jeter sur ces derniers une lumière suffisante, nous aidant de la déposition de nombreux témoins. Madame Bastien et son fils, en vérité, ne se sentirent point coupables, et l'on verra qu'en dernier ressort, la justice estima de même qu'ils ne l'étaient pas. Mais, avant de présenter plus intimement Madame Bastien-mère et son fils, disons quelques mots de leurs antécédents.